vais au chercher oriental. Vérifie totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une de compagnie au cas de langage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de vie précédente, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Le 14 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des normalisations. C'est l'occasion pour l'Organisation internationale de normalisation et les gouvernements des États de sensibiliser la population et les entreprises sur l'importance d'élaborer les normes dans une société. Selon certains observateurs, sans normes internationales communes établies et reconnues, les échanges ne seraient pas possibles, quels que soient les domaines. En RDC, de plus en plus, les prix des biens et des services sont fixés d'une manière forfaitaire ou aléatoire. C'est le cas, par exemple, du coût de l'énergie consommée ou d'autres denrées alimentaires des bases. Selon vous, est-ce possible à ces jours d'établir les normes dans les différents échanges et services en RDC? Quels sont les préalables pour y arriver? 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en monde par Alain Goy. Julie Fézaha sur la réalisation. Jirlungembo est à la coordination et Pierrot est la mise au micro pour la présentation sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
C'était hier que le monde a célébré la journée mondiale de la normalisation, la métrologie. Nous en parlons dans cette émission pour fixer d'abord l'opinion sur le rôle de la métrologie ainsi que la normalisation dans une société en ce qui concerne les échanges par exemple. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Bertin Toumba Bouloulou, président de l'association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC. M. Toumba Bouloulou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous d'abord de la métrologie et la normalisation. C'est quoi, en quelques mots, pour les auditeurs?
La métrologie, c'est l'ensemble de théories, l'ensemble de pratiques qui nous permettent d'effectuer des mesurages et avoir confiance en leurs résultats. Pour acheter la viande, on utilise la balance. Vous voulez acheter 5 kg de viande, vous devez vous assurer que la viande que vous avez eue, c'est réellement les 5 kg que vous avez demandé. Vous allez à la station service pour acheter le carburant. Les 15 litres qui sont indiqués sur la station, c'est réellement les 15 litres qu'on vous a donné. Vous allez à l'hôpital, vous venez voir le médecin, la première chose à faire, c'est de prévoir la température, c'est prendre la tension et tout ça. Vous devez vous assurer que les indications sont exactes. Parce que si ces indications sont fausses, ça peut amener à des catastrophes.
La métrologie et la normalisation, ça couvre presque tous les domaines, on peut dire, toutes les sphères de la vie.
Par rapport à la normalisation, je vous dis que la normalisation, c'est l'activité qui vous permet d'établir les normes, de les faire connaître et de les mettre en œuvre. La normalisation intervient quand un besoin est présenté. Je prends un exemple simple. Nous avons une route qui a été construite. Au bout de 2 mois, elle commence à s'habiller. Et puis, une deuxième fois, une troisième fois, les gens s'arrêtent et disent c'est pas possible. Il faut qu'on ait des routes durables. Les experts se mettent ensemble pour établir la norme. On écrit et on présente comment une route peut être durable. Des études qu'on doit faire, des mesures qu'on doit prendre, les matériaux qu'on doit utiliser. On établit la norme pour avoir des routes durables. Donc la normalisation intervient face à un besoin exprimé. Je vous donne un exemple, parmi les exemples que j'utilise souvent pour la normalisation, le pain que nous consommons tous les jours. Vous avez l'habitude de prendre un pain chaque jour avant d'aller au travail et puis vous vous surprenez en train de prendre 3. Pourquoi? Parce que le poids a diminué. Vous allez vous plaindre auprès de qui si la norme n'a pas été déjà déterminée en amont? Ça veut dire que quand il y a ce genre de problème, les gens doivent s'intéresser pour dire comment devons-nous définir ce que c'est qu'un pain? Comment devons-nous classifier ce type de pain? Et quand on dit on classifie, on en détermine les mesures, la composition, le conditionnement et tout ça, on a la norme.
Okay. Mais où est-ce que les deux sont liés?
Les deux sont liés en fait par le fait qu'on a besoin d'un référentiel, la référence. En fait, la métrologie, c'est la norme appliquée à la mesure. le besoin d'établir des références. Voilà.
Mm-hmm. Et les problèmes aujourd'hui dans notre pays, ça se pose à quel niveau en ce qui concerne ce domaine?
Dans notre pays, l'activité est conduite par le ministère de l'Industrie. Le problème principal que nous avons, c'est en termes de législation.
Mm-hmm.
Oui. Parce que toute activité d'innovation, transition de l'écologie est régie par des lois. En matière de normalisation, on doit avoir un cadre qui puisse garantir la fluidité de toute l'activité en termes de consensus, en termes de transparence, en termes de neutralité, en termes de cohérence. Parce que la norme doit résoudre un problème. Elle ne doit pas être elle-même en porte-à-faux avec les dispositions légales dans le pays.
Mmh.
La métrologie aussi, il faut une loi, parce que la métrologie a trois branches principales. Il y a la métrologie scientifique, la métrologie industrielle, la métrologie légale. La métrologie scientifique, comme le terme le dit, c'est la branche qui s'occupe de la recherche. La recherche permanente des références qui soient les plus crédibles possibles. Et la métrologie industrielle, c'est la métrologie pratique à l'industrie. Si je vais parler des exemples du pain, mm-hmm. pour avoir un pain d'une qualité constante, on a besoin de mesures précises en termes de dosage. Si vous avez un pain d'une certaine qualité, vous devez respecter les dosages en termes d'eau, de sel, d'autres ingrédients qu'on doit mettre. Et ça, ça doit être défini. Alors, ces dosages doivent être respectés ce que vous avez pour s'assurer que la qualité est constante.
Mm-hmm.
Ça, c'est valable pour la bière, pour tous les produits. Ça, c'est la métrologie industrielle. La métrologie légale, c'est la métrologie où intervient les règlements pour fixer les conditions d'utilisation des instruments de mesure, les unités qui doivent être utilisées. Cette métrologie intervient surtout pour la protection des consommateurs
mm-hmm.
dans le rapport quantité-prix. L'État va veiller à ce que ce que vous avez demandé, ce soit ce que réellement vous avez donné. Voilà.
Et aujourd'hui, si on veut parler en termes des conséquences néfastes pour notre société, à quoi on est exposé aujourd'hui quand on a des difficultés dans ces domaines?
Quand on est dans ce domaine, on a des problèmes, la population n'est pas suffisamment protégée. Vous êtes devant des mesures du genre Sakombi, Écolo, Amassina, c'est une mesure, Agombe, c'est une autre mesure. Alors que nous sommes dans la mondialisation, on doit tous utiliser le système international de mesure pour parler le même langage. Et l'autre problème, c'est qu'au niveau de la production industrielle, on n'a pas la qualité constante des produits parce que les différents dosages ne sont pas respectés. Dans un domaine aussi sensible que le domaine pharmaceutique, les dosages doivent être respectés. Alors imaginez un intrant qui doit être utilisé à 2%, vous l'utilisez à 3%, vous avez autre chose.
Mm-hmm.
Vous devez mettre 3 mg, vous mettez 3,5 mg, vous avez autre chose. Quand vous mettez moins, vous avez un produit qui n'est pas efficace. Donc là, au niveau de la production, c'est un problème. Au niveau de la protection de consommateurs, c'est un problème. Au niveau macroéconomique, dans les échanges entre États en termes de des produits pétroliers, par exemple.
Mm-hmm.
Vous savez que pour faire les bonnes affaires dans le domaine pétrolier, on parle d'un centaine de milliers de barils. Une petite erreur d'1%. Vous imaginez pour un pays comme l'Angola qui a atteint 2 millions de barils. 1% d'erreur, ça fait 200 000 barils. Fois 100, quand le baril est à 100 dollars, ça fait qu'on est 20 millions de pertes. Vous voyez, la métrologie est très importante dans l'économie.
Et ça, c'est important. Mais aujourd'hui, s'il faudrait que l'État puisse intervenir pour améliorer, avant qu'on écoute les auditeurs, quels sont les acteurs qui doivent être impliqués?
J'ai dit que la normalisation est basée sur une loi. La loi doit garantir la participation de toute la communauté dans son ensemble.
Mm-hmm.
C'est pour cela qu'on parle des parties prenantes ou des parties intéressées. Les parties prenantes, généralement, c'est le gouvernement qui doit être représenté dans les commissions techniques. C'est le secteur privé, c'est les milieux de recherche, les milieux académiques,
uh-huh.
et c'est les consommateurs, la société, où ça se situe dans son ensemble. Ça, ce sont les parties prenantes. Donc, chacun a des intérêts à défendre.
Uh-huh.
Et la production d'une norme requiert la tolérance de l'autre, parce que le but poursuivi, c'est harmoniser les vies pour résoudre un problème qui se pose de manière récurrente dans la société.
081-890-61, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans ces magazines consacrés, bien sûr, à la célébration de cette journée mondiale. Nous parlons de la métrologie, de la normalisation. Vous avez suivi les précisions avec notre invité pour cette introduction. Amos et à Bukavu, Maurice Issa Kinshasa, Eric et à Guéméa dans la province de l'Équateur. De nombre 081-890-61.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Parole aux auditeurs.
Amos, vous nous appelez de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Bonjour.
Bonjour, Cyril. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonjour à notre invité du jour.
On vous écoute, Amos.
Merci. En fait, par rapport au sujet du jour, je pense que si la normalisation est une réalité dans d'autres pays, en RDC, cela demeure un miracle au regret de la population congolaise que nous sommes. Je dis qu'en RDC, nous vivons une situation catastrophique pour ce qui est de la fixation du prix. Vous allez constater avec les auditeurs que dans notre pays, chaque opérateur économique fixe le prix comme il veut. Quelles sont les causes? D'abord, tant qu'il y a le non-respect des textes au pays, nous avons des bons textes, mais qui ne sont pas respectés. Chacun se comporte comme il veut, comme qui dirait, il est roi, il doit se faire ce qu'il semble, comme qui dirait, on est dans une jungle. Et si vous êtes contacté, ces opérateurs économiques, ils vont vous tenir informés qu'ils sont valablement tracassés par les agents de l'État, mais aussi il y a une taxation à l'égard de ces gens-là. Voilà ce qui le pousse. Une fois, il se dit non, moi qui ai été surtaxé, j'ai été tracassé par les agents de l'État, et c'est moi qui ai ma marchandise. Pour se retrouver finalement, il faut qu'il fixe le prix comme il veut. Chose grave, même dans les entreprises publiques, on a toujours vécu cette situation. Pour ne pas le dire, vous avez constaté, pour ne pas citer la FNEL, pour ne pas parler de toute la partie de l'Est, 1 kW est payé à 83 francs. Et pourtant, à l'Ouest, 1 kW est payé à 12 francs. Pas expliquer ou comment faire comprendre aux Congolais que nous sommes, nous vivons dans un même pays. Nul n'ignore les conditions de vie qui nous sont imposées par nos dirigeants. Si on peut payer 12 francs à Kinshasa, à l'Est, on paye 83 francs pour 1 kW au moment où nous vivons dans un même pays. Voilà ce qui pousse les Congolais à comprendre que vraiment la situation est tellement catastrophique pour ce qui est de la fixation des prix dans notre pays au Congo. Il faut aussi voir que par rapport à ce que l'invité a dit, même la qualité que nous recevons. On a difficile à comprendre pour ce qui est de la résidence, même dans notre service. Vous allez comprendre que nous ne parvenons pas à recevoir une qualité satisfaisante de leur service, mais cela n'empêche qu'à la fin du mois, ils nous envoient qu'on puisse payer leurs factures. Ce qui fait que la population, quand vous avez rencontré un robinet qui a plus de 12 ans, sans pouvoir recevoir de l'eau. Mais chaque fin du mois, on envoie la facture. On se demande finalement, nous sommes dans quel état, et c'est là que la population parvient à dire non. Ce sont nos dirigeants qui se mettent à nous piller, qui se mettent à nous escroquer. Dans tous les domaines que j'y ai, que ce soit même les petits vendeurs qui vendent des beignets sur la route, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de fixation de prix. Et la population ne cesse de condamner nos dirigeants qui ne parviennent pas à mettre de l'eau dans ces données-là.
Merci beaucoup.
Dans une même commune, on peut acheter même un article à $12. À deux maisons, on achète le même article à $16. ou à 30 dollars à 50 dollars. Ça démontre à ce moment que nous avons des
problèmes. On a des problèmes très sérieux. Mais on ne peut pas respecter. Merci beaucoup, Amos. Vous avez donné deux exemples précis. Vous posez des questions de savoir comment on peut facturer à la population un kilowatt d'électricité à l'Est à 83 francs, alors qu'à l'Ouest c'est 12 francs. C'est sur quelle base et quelle norme qu'on est arrivé vraiment à fixer cela dans le même pays. Vous avez aussi évoqué en ce qui concerne la qualité, que ce soit l'eau et l'électricité, par rapport à la facturation. Vous avez des factures, mais qui ne répondent pas à la qualité de ce qui vous est fourni. Alors, vous avez plus à interpeller le pouvoir public pour arriver à normaliser cette situation. Merci beaucoup, Amos. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Maurice, vous êtes avec nous. Bonjour. Dommage qu'on a perdu Maurice. Nous allons à Guémena, dans la province de l'Équateur des Mambrés. Héritier, merci de vous être joint à nous dans cet échange. Bonjour, Héritier.
Bonjour, Mathieu.
Vous avez suivi l'introduction avec notre invité par rapport aux mesures qui doivent être déterminées et respectées, mais aussi que ce soit par rapport à la normalisation, cet exemple donné par notre ami qui est à Bukavu et la conséquence, comme l'invité venait de le dire tout à l'heure. Pour vous, quel est votre point de vue par rapport à cette question? Est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à harmoniser ces domaines dans notre pays?
Merci, monsieur le journaliste. Je tiens à vous signaler de prime abord que la radio Capi émettait ici, mais aujourd'hui nous avons beaucoup discuté parce que elle n'émet pas aujourd'hui. Mais Catherine ne tient. Effectivement, j'ai été surpris d'écouter que la RDC célèbre aussi la journée de la normalisation des services et des échanges de services. Mais il faut qu'on rappelle plutôt, qu'on propose plutôt au gouvernement, parce que c'est comme si le ministère de l'économie, pratiquement, ne travaille qu'à Kinshasa. Aujourd'hui, je vous signale que là où je suis à Guémena, à Zongo, à Badolite, on ne voit pas pratiquement la nécessité d'un ministère de l'économie. Parce que c'est le ministère de l'économie qui fixe le prix, et non le particulier. Ce ne sont pas les particuliers qui ont ce monopole de fixer le prix. Vous allez voir plutôt la bière qui est vendue à Kinshasa, je ne sais pas moi, à 1000 francs, mais ici à Guémena, Guado, Zongo, la bière coûte pratiquement 3000 francs congolais. Vous voyez? C'est comme si Guémena n'existait pas en RDC. Nous avons besoin de la normalisation. Le ministère plutôt de l'économie devrait fixer un prix inégal au transport, inégal aux taxes qui sont afférents pour la bière. La bière ici est trop chère par rapport à Kinshasa. Je ne sais pas comment nous allons célébrer cette journée, c'est qu'il y a toujours des dichotomies, il y a toujours des paradoxes dans le ministère de l'économie.
Alors, Héritier, vous avez évoqué tout à l'heure, notre invité a dit que le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est comment arriver à avoir des textes juridiques qui harmonisent les domaines de la normalisation de la métrologie, mais vous posez des questions de savoir la différence des prix aujourd'hui, les prix qui sont aléatoires, forfaitaires, d'un milieu à l'autre, si le pouvoir public pouvait vous aider à pouvoir harmoniser, vous avez évoqué tout à l'heure les cas de la bière, que ce soit entre Kinshasa et Guémena, Zongo et Badolité, et la bière, bien sûr, à consommer avec modération par rapport à la santé, mais quant à la situation de la radio Capi à Guémena, je crois bien l'équipe technique est en train de vous suivre. Hein. Il y aura les gens qui seront déployés pour s'occuper de ça. Aujourd'hui même, d'ailleurs, c'est que voilà, c'est le temps. Il y a une équipe technique qui pourra se rendre à Guémena pour s'occuper de la situation du signal de radio Capi sur place. Je crois bien que ça sera amélioré pour que vous puissiez être en contact avec votre radio chaque moment, comme d'habitude. Merci beaucoup, Héritier de Guémena. Nous avons Ernest qui est à Matadi, dans la province du Congo central. Ernest, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Est-ce que d'abord la journée a été célébrée à Matadi, par exemple? Les gens se sont-ils réunis pour réfléchir autour de la normalisation de la métrologie?
En tout cas, je ne sais pas, moi-même, je suis surpris. Mais si c'est un département et une science qui s'appelle météorologie et normalisation, ça m'a étonné. Je me suis posé des questions le matin lorsque vous annonciez le sujet. Je me dis, mais il s'agit de quoi? Alors j'étais prêt pour suivre l'introduction de l'invité. Je suis surpris que nous avons des situations. Alors c'est comme si les gens vivent dans un pays ou dans un monde à part entière ou à nous seuls. Donc je me dis, mais tout ce que nous vivons, tout est mesuré, tout est mesurable. C'est-à-dire qu'avec tous ces éléments, on arrive à fixer les prix des services. Mais je veux dire, finalement, si ces principes sont connus à travers l'humanité et à travers nos institutions, mais comment on arrive à ne pas comprendre? Vous êtes dans un quartier, vous habitez dans une même avenue, mais lorsqu'on vous envoie des facturations, par exemple, des régimes sur la consommation ou la consommation de l'énergie électrique, les prix sont variés par, est-ce que c'est par tendance, par les individus. Vous habitez Kinkanda, Matad ici, c'est autre chose. Vous habitez la cité de Vadou, ou une colonne, c'est autre chose. Alors qu'il y a des principes, des normes. Et alors que c'est comme ça qu'on gère, c'est-à-dire qu'on le fait sciemment, il n'est pas avoir des frontières pour embrouiller les cartes. Mais aussi, dans les prix des services que nous rendons. Avec ces normes, on doit tenir compte comment on calcule les salaires, sur ce qu'ils ont dit, le nombre d'heures, les charges, et ainsi de suite. Et on réalise que nous faisons tout, alors tout dans notre pays, de façon aléatoire ou imaginaire ou sinon forfaitaire. Ça, c'est très grave. Alors que les domaines scientifiques sont là, et je ne sais pas si au niveau de l'enseignement secondaire, à quel niveau on peut embrasser ce genre de connaissances pour que ça soit poursuivi au niveau supérieur. Et que le gouvernement, il faut former des citoyens capables de faire et poursuivre. Sinon, l'exemple que l'invité vient de donner sur les médecins, les produits pharmaceutiques. Mais c'est très grave. Pourquoi nous avons des maladies qui périssent parce que l'usage est médiocre. Soit en fait nombre, il y a un cas de blessé, soit en faible nombre, c'est une maladie perdue. Donc je crois que c'est un. En matérie, je n'ai rien entendu, même au niveau des radios locales, des télévisions, je n'ai rien entendu qu'il y avait célébration de ce genre de phénomène pour éveiller la conscience des gens qu'ils vont réclamer des mesures normales de ceux qui ne servent plus rendus, ou de ceux que vous achetez, ou de ceux que vous consommez. Et c'est vrai de parler. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'étrange et de nouveau.
Merci beaucoup, Ernest. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il faudrait que les gens réclament. Hein. Il y a même un auditeur qui nous a écrit, je crois bien, c'est Armand Kondoli de Kinshasa. Il dit ceci, il est possible qu'on arrive à établir, à respecter des normes dans les échanges si la société civile s'y engage dans la sensibilisation de la population pour qu'elle réclame. Ça, c'est Armand qui nous a écrit de Kinshasa. Il a rejoint votre point de vue. Et là, vous avez dit, hein, il n'y a pas de compteur aujourd'hui quand on regarde comment l'énergie est distribuée, que ce soit à l'eau, l'électricité, il n'y a pas de compteur, mais comment on fixe alors comment la facturation aujourd'hui, on calcule sur base de quoi, tout est aléatoire, et pourtant on devait avoir des normes de consommation qui devaient se rapporter à la facturation, y compris aussi les calculs des salaires, un nombre d'heures, tout ça doit être fixé, il y a des normes. Vous insistez beaucoup sur le rôle de la population dans la réclamation. Merci beaucoup, Ernest. On va écouter Maurice qui est à Kinshasa à revenir dans ce studio pour que notre invité puisse se placer un mot par rapport à tout ce qui a été dit par les compatriotes. Maurice, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot Alain.
Et vous avez suivi les uns et les autres votre intervention par rapport à ces thématiques.
Je suis tenté même, en fait, d'aller dans le même sens qu'Ernest, parce qu'en fait, apparemment, c'est une notion qui apparaît un peu étrange, où les gens n'ont pas assez de connaissances par rapport à nos habitudes sur ce qui concerne d'abord en fait la fixation des prix sur lesquels en fait sur les domaines dans lesquels en fait nous basons notre débat aujourd'hui. Alors je pense que tout ce que nous décrions comme observation malheureuse que tout le monde en fait indique dans ses interventions, c'est lié en fait à une d'abord à une cause, hein, parce que là nous nous plaignons par rapport en fait à la aux conséquences, mais nous devons d'abord parler des causes, et les causes d'abord résident dans le texte. Apparemment quand quelqu'un dit c'est la première fois en fait qu'on puisse parler de la métrologie, hein, de la métrologie, mais la métrologie existe. C'est vraiment une normalisation, comme votre invité l'a expliqué, dans les pays sérieux. Hein. Donc, quand vous allez dans un pays sérieux, vous allez observer que les prix sont uniformes, sont en fait homologués par l'État. Alors, Mais lorsque vous rendez dans un pays où les gens marchent par la tête comme chez nous, vous allez observer aussi que les prix sont fixés par rapport aux états d'âme. C'est comme aujourd'hui, les gens se plaignent par rapport aux factures qui sont chaque mois déposées par la semaine comme la Ligue des Eaux, où ils ne tirent en fait aucune information relative en fait à cette taxation. Donc de manière forfaitaire, on vous amène une facture et nous ne savons pas comment se justifier. Et voilà comment on impose ce genre de système dans un pays où la population est vraiment très démunie, mais une population aussi qui ne connaît même la quintessence de certaines lois qui régissent en fait ce que nous sommes en train de débattre comme sujet. Alors, nous pensons que pour proposer quelque chose, nous devons rentrer seulement dans les textes. Comme le texte existe, le texte de métrologie, comme votre invité a dit, c'est le problème au niveau seulement de l'application ou de l'applicabilité. Donc les gens doivent avoir la notion en fait, de respect des textes, parce que le texte, c'est nous-mêmes qui les établissons. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle plus, les gens focalisent leur attention dans la fixation des prix. Pour ça, il y a aussi certaines normes. Quand vous voyez dans certaines normes, par exemple, prenons par exemple ce que nous observons dans la circulation routière. Vous voyez que dans une seule ville, dans une seule chaussée, dans un seul boulevard, vous voyez des véhicules qui roulent, des volants droits et des volants gauche. Or, dans certains pays, quand vous rendez la ville du Sud, vous allez comprendre que les véhicules sont des volants droits et les routes sont adaptées à ces normes, en fait, sont adaptées aux volants. Aux volants qui sont en fait utilisés là-bas. Mais quand vous voyez dans un seul pays et le volant droit et le volant gauche circuler, ça vous donne déjà l'impression que nous sommes vraiment dans une cacophonie, dans un désordre institutionnalisé. Alors, raison pour laquelle nous disons que les débats d'aujourd'hui ne doivent pas en fait se focaliser ou se circonscrire juste dans la fixation des prix ou dans l'homologation, ce que nous décrions plutôt nos prédécesseurs ont décrié, mais nous devons aller aussi en fait élargir notre cercle de réflexion pour comprendre que nous avons un problème sérieux et le problème se pose en fait au niveau du respect, au niveau de l'applicabilité en fait de nos propres normes, de nos propres textes qui régissent en fait notre société. Voilà, c'est le niveau que je pourrais.
Merci beaucoup, Maurice. Vous avez raison. C'est vrai que quand on parle aujourd'hui de la normalisation, quand on a évoqué la métrologie, tellement qu'il y a beaucoup de domaines qui sont concernés, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait dire. On a essayé d'abord de voir comment on peut adapter par rapport aujourd'hui à la consommation de services, de biens, la manière dont on procède juste dans la fixation des prix. L'invité le disait tout à l'heure, vous avez le maïs vendu à travers le pays et par des instruments, des mesures différentes. À Kananga, c'est pas ce qu'on utilise à Kinshasa, c'est pas ce qu'on utilise à Lubumbashi, et les prix varient d'une ville à l'autre. Mais vous avez dit que le problème est tellement profond qu'il faut aller plus loin. Les cas, l'exemple aujourd'hui de la circulation routière avec des véhicules tantôt à volant à gauche, à volant droit, du côté des routes qui sont adaptées pour les véhicules à volant à gauche. Voilà, toutes ces questions se posent. Comment on peut arriver à respecter les normes, ou soit nous optons pour une disposition, soit nous optons pour une autre, mais si on veut combiner les deux dispositions, c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui, avoir des normes et des routes aussi adaptées à la circulation, soit le volant à gauche, soit le volant à droite. C'est pourquoi vous avez dit, la question est vraiment très très importante. Merci beaucoup Maurice et Clément, et ingénieur Rick, vous gardez la ligne, on va revenir à vous, 081 890 6315.
Okapi Soir vous propose de lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, des offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Soyi, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les Français de sport, toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Okapi Histoire.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Bertin Toumba. Vous avez suivi nos auditeurs. D'abord, il se dégage quelque chose, c'est que la métrologie, la normalisation, c'est d'abord inconnu de la population. Voilà même Ernest de Matade qui dit, mais je suis surpris d'apprendre qu'il y a un domaine comme ça qui existe. Il a même posé la question à partir de quel degré au niveau de l'enseignement peut-on déjà s'intéresser à ces domaines. Ça, c'est d'abord un problème. Les gens sont totalement ignorants de ces différents domaines. Et puis, plusieurs sont revenus sur les rôles de l'État, mais aussi de la société civile, de la population, pour arriver vraiment à intégrer ces notions dans nos revendications, dans notre vie au quotidien, pour que ça devienne nos habitudes, comme le disait tout à l'heure Maurice.
Ok, ce que Maurice a dit, fait comme constat, c'est justement ce qui a motivé la création de notre organisation. Nous nous sommes rendus compte que chez nous, on évoque le nord justement quand il y a des catastrophes.
Mm-hmm.
Un crash, un bateau qui coule, etc. On commence à se poser la question, est-ce qu'il a respecté les normes? Est-ce qu'on a respecté les normes internationales? Comme on a toujours l'habitude de penser que les réponses nous viennent d'ailleurs, on pense que la norme c'est quelque chose qui a été dicté quelque part pour venir résoudre nos problèmes. C'est pas possible. Ici, ça me donne l'occasion de rappeler ceci, que la normalisation est organisée à tous les niveaux. Au niveau international, il fait l'objet des organisations comme ISO, l'Organisation internationale de normalisation, qui est basée en Suisse. Il y a une autre organisation qui est la CEI, la Commission électronique internationale, qui est aussi basée en Suisse, qui ne s'occupe que des normes du domaine de l'électrotechnique. Il y a l'UIT, l'Union internationale de télécommunications, qui s'occupe des normes dans le domaine des télécommunications.
Mm-hmm.
Et puis il y a le Codex Alimentarius, c'est une commission qui a été créée à l'initiative de la FAO et de l'OMS pour travailler uniquement sur des normes du domaine de l'agroalimentaire et de la santé. Ouais, donc, au niveau international, ça passe. Le Codex Alimentarius a été créé en 1963, mais ISO, c'est depuis 1947. Et la CEI, c'est encore plus tôt, autour des années 1906, que la CEI a été créée. Et même, je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'occasion de la journée de la normalisation, les trois organisations se mettent ensemble. Et les responsables des trois organisations, j'ai dit CEI, ISO et UIT, se mettent ensemble pour livrer un message à la communauté internationale. Ça, c'est un. Je voudrais aussi signaler, préciser à l'intention des auditeurs, qu'il y a trois types principaux de normes. Il y a ce qu'on appelle les normes de fait. Les normes de fait, c'est les principes, les règles que nous subissons, puisqu'ils existent devant lesquels nous prenons. La succession du jour à la nuit, c'est un principe divin. On peut rien comme ça, c'est Dieu, c'est établi, c'est comme ça. Les plantes qui sont vertes, une plante vivante doit être verte, c'est des principes de la vie, c'est Dieu qui a créé. Il y a des principes de fait. Mais il y a ce qu'on appelle des normes d'entreprise, généralement appelées standards, ou de groupes d'entreprise. Vous avez une société de construction automobile, une société, nous devons parler le langage pour échanger, nous établissons des codes. Ça, c'est un des normes privées dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprise évalué dans le même secteur. Vous voyez ça?
Mm-hmm.
Ça, ce sont des standards, des normes privées d'entreprise. Alors maintenant, les normes dont on parle, et qui sont d'actualité aujourd'hui, ce sont des normes qu'on appelle des normes consensuelles, devant les défis de la société.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, l'environnement est menacé. Il faut des normes. Toutes les parties de la société se mettent ensemble pour trouver les principes, les façons d'agir qui puissent garantir un environnement sain. Alors, on établit les normes. La série 14, ce sont les normes sur l'environnement. Tous les domaines d'activité sont concernés par l'organisation. L'organisation internationale de l'organisation ISO a déjà produit plus de 20 000 normes internationales. 20 000. Vous imaginez ce que ça fait. Et il y a des pays qui ont compris que l'organisation c'était un domaine très important et qui ont basé toute une stratégie nationale dans le cadre de l'organisation. C'est ce que nous avons tenté de dire hier à la conférence qui a été organisée au centre de Bruxelles pour dire que les pays ne se développent pas par hasard. Il y a des créneaux importants, comme ce créneau de normalisation de métrologie. On ne peut pas évoluer sans avoir des repères. Un savant anglais a dit, si vous ne savez pas traduire ce dont vous parlez par des chiffres, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça répond un peu à ce que les amis ont dit tout à l'heure. Par rapport au prix, je me dis ceci. Pour fixer le prix d'un produit, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Hein.
Mm-hmm.
Je ne veux pas entrer sur ce niveau-là,
ouais.
Parce que ce soit ici, il y a le transport, il y a la conservation et tout ça. Mais le travail le plus important, c'est qu'il y ait la transparence en termes d'intrants, par exemple. Hein? C'est des choses qui doivent être définies avant. Dans certains pays, quand vous achetez un produit, on vous donne le numéro d'enregistrement de ce produit.
Mm-hmm.
Ça veut dire que vous concevez un produit alimentaire. Avant de mettre sur le marché, vous allez dans un bureau au ministère de l'économie. On l'enregistre avec ses spécifications. ça facilite la tâche au consommateur. Comme ça, il peut lui-même vérifier si ce qui a été déclaré, c'est ce qui est effectivement contenu dans le produit. Ça facilite la tâche au contrôleur. Il a le repère pour savoir si c'est, il est dans le bon ou dans le mal. C'est par rapport à ce qu'il avait déclaré. Il y a donc ce numéro d'enregistrement. Le deuxième élément, c'est la norme. J'ai dit que la norme, par principe, elle est d'application volontaire parce que c'est dans le but d'harmoniser les vues entre toutes les parties prenantes de la société.
Mm-hmm.
J'ai donné l'exemple du pain tout à l'heure. C'est pour nous faciliter tout ce qui passe, chacun dans ce qu'il fait, avoir les mêmes repères. Quelqu'un a parlé de la qualité. La qualité est définie dans les normes comme étant l'aptitude pour un produit ou un service à répondre aux exigences du consommateur.
Mm-hmm.
Je suis en face de deux chemises en coton, l'une est bleue, l'autre jaune, l'autre verte. Pour vous, celle qui est verte est de bonne qualité, alors qu'en réalité, c'est la même matière. Vous voyez qu'il y a des éléments qui ne dépendent pas, qui sont, comment dirais-je, subjectifs. Mais il y a des éléments qui sont objectifs. Par exemple, la nature du tissu qu'on a utilisé, ça c'est des choses sur lesquelles on devrait être d'accord par rapport à la fixation de normes. Pour dire, par exemple, j'ai appris notamment en travail d'harmonisation qu'un tissu, pour l'apprécier, il y a une densité. Il y a des tissus qui sont apparemment les mêmes, et quand vous mettez dans l'eau, deux, trois fois, ça change, parce que la densité. Donc, il y a des mesures qu'il faut prendre pour évaluer la qualité des choses. Donc, aujourd'hui, par rapport à la norme, j'ai dit que tout dépend de la démarche et des matières qui sont utilisées. Nous deux, nous allons sur les marchés blancs et des véhicules. Vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous dites, moi je me contente de la petite coccinelle. Moi je dis, je prends la Mercedes. Mais je paye, je sais ce que vaut la Mercedes. Il y a des éléments en termes de confort qu'on peut mesurer. Il y a des éléments en termes de toutes les facilités ou les matériaux qui sont utilisés, il y a des gens qui préfèrent les ces encouilles et tout ça, qui font que le produit est le prix plus élevé par rapport. Mais le plus important, c'est que les choses soient clairement définies. C'est plus cher parce qu'il y a tel produit qui a été mis en.
Et la difficulté, comme le disait tout à l'heure nos auditeurs, quand ils ont évoqué la facturation, que ce soit la scène ou la régie des autres, c'est de pouvoir recevoir des factures, mais on ne sait pas quelle la norme qui a été utilisée par ces sociétés dans la fixation de ces prix. Vous n'avez pas un compteur, par exemple, à la maison, mais les gens n'ont pas de repères. Notre ami d'évocat vous disait tout à l'heure, je ne comprends rien qu'un kilowatt soit facturé 83 francs congolais à l'est, à l'ouest 12 francs, alors nous sommes dans le même pays. C'est ce manque de transparence qui fait aujourd'hui que les gens n'ont plus même confiance dans les services qui sont proposés par les sociétés qui ressortent du domaine public.
Vous avez tellement raison. Moi, je me dis, souvent, j'interpelle mes frères, mes amis qui travaillent dans ces deux sociétés. Ce sont les deux domaines qui sont éminemment sociaux. Il faut faire un effort. Souvent, on interpelle les consommateurs en leur disant que vous devez économiser. Comment est-ce qu'on peut économiser quand on ne sait pas compter? Que je prenne 20 litres, 100 litres, que je prenne 10 litres, la même chose, ça ne peut pas m'amener à économiser. Et quelque part, il faut que nos frères, mercenaires, fassent un effort. Aujourd'hui, en 2015, on ne peut pas accepter une facturation forfaitaire. Nous devons croire qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine-là pour vite foutre pas là ça. Parce qu'aujourd'hui, même la campagne qui passe par rapport à la qualité des ampoules et tout ça, mais quand il n'y a pas de compteur, que je mettrai des ampoules, c'est pas mon problème. S'il n'y a pas de compteur, comment je saurais si les consommes plus ou moins? Ça, c'est un. Deux, il y a un aspect comptage, il y a un aspect qualité du produit. Vous avez des fluctuations qui atteignent parfois 30-40, vous atteignez parfois 280 avec tout ce que nous connaissons comme des agréments à la cité, nos appareils qui sont abîmés, tout ça. Qui paye ça? Vous voyez ça? Nous ne pouvons arriver à être rationnels dans ce que nous faisons si nous savons compter, si nous avons des mêmes repères. Par exemple, pour le quoi, on doit nous déterminer. On sait que la livraison, c'est 200 €. Il ne faut pas qu'on m'envoie 280, qu'on m'envoie pas 130.
130, comme on voit dans beaucoup de quartiers, on a l'électricité qui n'arrive pas à résoudre les problèmes de fichiers pour effacer les habits. Mais il y a tout à l'heure les amis qui ont parlé des textes juridiques. Mais est-ce que nous avons des textes spécifiques aujourd'hui dans ces domaines?
J'ai dit que ça, c'était notre cheval de bataille aujourd'hui. Dans le cadre de nos activités, nous avons eu l'honneur d'être invités au Sénat en 2011. Nous avons plaidé en faveur de ces activités. Et après notre passage, l'honorable Moutamba Diba avait pris l'initiative d'une loi, la proposition de loi, qui a déjà été adoptée au Sénat en 2014. Au jour d'aujourd'hui, cette proposition est à l'examen au niveau de l'Assemblée nationale. Notre vœu le plus cher, c'est qu'on aille vite, qu'on dote le pays de ce instrument qui est très important. Pourquoi c'est important? Je dis que l'innovation et la méthodologie, ce sont des outils d'intégration dans une communauté.
Mm-hmm.
D'abord, au niveau national, nous devons parler le même langage que celui qui est rassemblé, c'est que celui à Mwanda, et le sentiment d'appartenir à un pays quand on a le même référentiel. On a un manioc au Bas-Congo qui est blanc, un manioc, je ne sais pas d'où, qui est un peu noir. Mais on doit en donner ces significations, on doit avoir des normes pour parler le même langage, où qu'on soit dans ce pays. D'abord, c'est un élément important d'intégration pour le pays, qu'on parle le même langage. Vous savez qu'il y a plusieurs défis à régler à cette matière-là. Nous sommes un pays très grand, avec des voisins à l'est qui parlent anglais. Donc nos compatriotes qui sont à l'est sont confrontés à des partenaires qui parlent en anglais avec des normes en anglais. Nous sommes à l'ouest avec des pays comme le Congo voisin qui parle français, tout ça. L'élément qui va mettre le Congo ensemble, c'est la norme en français, connue et appliquée de la même manière dans tout le pays. Voilà un élément important pour la
modernisation. Et nous allons compléter aussi avec un grand voisin qui nous fournit aujourd'hui beaucoup de biens et services, l'Angola, mais qui n'a pas la même langue. Ce problème se pose. Des fois, il arrive que les Congolais puissent subir les normes qui sont fixées par ces pays limitrophes. Nous avons Clément qui est ici à Kinshasa. Bonjour Clément.
Bonjour aux fidèles auditeurs de la radio
Pacifique. On vous écoute, Clément.
Oui, merci beaucoup d'abord pour l'opportunité. Moi selon le sujet m'a intéressé surtout sur les plans et compétences d'abord, puisqu'on ne peut pas parler de la normalisation sans pour autant dire un mot de la compétence. Beaucoup de gens ont évoqué vraiment différentes notions concernant les prix, les relations, la constance des prix, des histoires pareilles. Mais la normalisation, c'est aussi d'avoir la compétence, puisque et chacun doit faire quoi selon les normes. Vous verrez que selon l'organisation du travail ou la catégorisation du travail, il y a des normes qu'on a données pour chacun des travailleurs qui doit exécuter. Est-ce que ces normes sont exécutées ou pas? Et ces normes ici, puisque selon l'invité du jour qui vient de nous dire déjà un petit bref sur tout ça, là, parler de quelques organismes internationaux qui s'occupent de la normalisation au niveau international. Je peux citer par exemple l'UNESCO aussi a ses propres normes, il y a aussi la classification internationale des types de profession du bureau international du travail qui a aussi ses normes. Donc, tous ces bureaux ont des normes, mais vous voyez un peu clair sur la notion compétence travail. Aujourd'hui, on voit un mécanicien. Quel niveau de compétence doit-il avoir selon les normes? On peut voir un enseignant. Quel niveau de compétence doit-il avoir? Et aussi les autres fonctionnaires, mais aussi tous ceux qui travaillent sur les plans nationaux qui sont chargés de l'exécution de l'État. Alors moi, j'aimerais un peu vraiment surtout me baser sur la compétence selon la normalisation. Il faut aussi que l'État congolais trouve un moyen, puisque jusque-là, nous travaillons toujours sous les organismes internationaux qui nous fournissent des normes et des normes. Mais ici, proprement, ici en RDC, est-ce que nous avons une institution qui est chargée de la normalisation et qui exécute, puisque le mot normalisation ici au Congo, si vous baladez en cours de route, vous verrez que c'est un terme nouveau pour des Congolais, pour des concitoyens comme
comme vous avez cité. Et d'ailleurs, ce que vous avez ajouté, Clément, c'est important. Vous avez parlé des compétences. Quand il y a des normes dans chaque domaine, il faudrait qu'on soit sûr vraiment que quand quelqu'un est mécanicien, c'est-à-dire qu'il est compétent, il est infirmier, il est compétent, c'est-à-dire qu'il a été formé selon les normes qui sont fixées. Mais il faudrait aussi au niveau de la RDC qu'on ait des normes qu'on se fixe, mais ces normes doivent être en conformité avec la normalisation internationale. La compétence que vous avez ajoutée, c'est vraiment aussi le dimension dans ces débats. Merci beaucoup, Clément. Ingénieur Hugues, vous êtes à Boutembo, dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Donc, on vous écoute.
Voilà, je voulais qu'on puisse d'abord merci pour ce débat. C'est un débat pertinent. J'aimerais qu'on puisse circonscrire les domaines d'application de normes. Parce qu'on ne peut pas parler de normes sans la conformité. Et qui dit conformité, on doit faire appel à l'organisme d'évaluation de conformité. Et ici au Congo, nous avons un service technique de l'État, nous tous connaissons, c'est l'Office congolais des contrôles.
Des contrôles, oui.
Qui au fait est un service de l'État qui a dans sa charge d'évaluation de la qualité des produits, d'appliquer les normes. Parce que comment expliquer déterminer la qualité d'un produit sans référentiel? Et j'aimerais que notre interlocuteur puisse présenter cet aspect des choses à travers un organisme congolais d'évaluation de conformité. Pour votre information, nous avons à l'OCC un département de la normalisation. Et au niveau de ce département, il y a une série des documents ou des normes qui sont actualisées et qui font l'objet d'application dans tous les domaines du travail de l'OPC. Je vous donne un exemple. Nous avons un laboratoire d'essai et d'analyse. Ce laboratoire travaille selon la norme ISO 27025 qui détermine les exigences générales concernant la compétence du laboratoire.
Mm-hmm.
Et pour votre information aussi, nous avons le département de météorologie dont l'aspect de maths a déjà fait l'objet d'accréditation. Donc si nous intervenons, c'est pour que nous puissions rendre plus efficace la suite du débat. Parce qu'on ne peut pas parler de normes sans organisme d'évaluation de conformité. Et j'aimerais que notre invité puisse insister là-dessus et dire qu'à l'OCC, il y a l'OCC est un organisme d'évaluation de conformité et nous devons faire confiance à l'OCC en tant que service technique qui applique les normes dans tous les domaines. Exemple. Au niveau de l'environnement, nous avons ISO 14000. Au niveau de la sécurité alimentaire, nous avons ISO 22000. Au niveau du système sanitaire, nous avons ISO 9001. Et toutes ces normes sont d'application et c'est vrai que la population congolaise et dans tous les recoins possibles sache que nous devons faire confiance à l'OCC. Parce qu'ils ne travaillent pas sur base de documents aléatoires, ils travaillent sur base de référentiels internationaux avec tout ce qu'il y a comme accords nationaux, régionaux, à travers.
Internationaux. Merci beaucoup, ingénieur Hugues, vous pour cette précision. D'ailleurs, c'est la question que nous allions poser à notre invité aujourd'hui pour savoir comment quel est le service qui s'occupe aujourd'hui de cette surveillance. Vous avez évoqué. Et la conformité avec un organisme public qui est l'OCC. Joseph et Roger, vous gardez la ligne rapidement. Nous revenons à vous, Monsieur Bertin Toumba, par rapport à cette préoccupation du rôle que l'OCC joue. Vous avez donné l'exemple aujourd'hui avec les provinces qui sont aujourd'hui frontalières avec les pays où il y a 300 des pays anglophones, ce sont des pays francophones, lusophones. Et dans cette configuration, est-ce que l'OCC arrive vraiment à jouer ce rôle de la vérification de la conformité des normes? Notre compatriote tout à l'heure, il est vraiment assez informé, il doit peut-être travailler au sein de l'OCC parce qu'il a vraiment assez d'éléments. Et rapidement, est-ce que l'OCC arrive aujourd'hui à jouer ce rôle comme il faut pour faire respecter tous ces éléments qu'il a évoqués aujourd'hui par rapport à ces difficultés sur terrain, un peu rapidement?
Merci beaucoup. Je salue la pertinence de votre intervention, M. Lille. Ça se voit très bien qu'il est du domaine. Je voudrais préciser une chose. Il y a ce qu'on appelle dans tous les pays, c'est l'infrastructure qualité. Mmh. Ailleurs, ces infrastructures sont appelées le système. Au Canada, on appelle ça réseau de normalisation. Ces infrastructures ont trois piliers. C'est la métrologie, la normalisation et l'évaluation de la conformité. Je vous ai dit que la normalisation, c'est l'activité qui consiste à élaborer les normes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre. C'est un processus. Alors, par rapport à l'OCC, je salue les efforts qui sont fournis dans ce pays-là, dans cette entreprise, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, l'accréditation. C'est un processus qui est assez coûteux, qui demande beaucoup d'efforts, qui a été mené jusqu'à terme à avoir une accréditation. Je voudrais, avant de continuer à répondre, pour répondre à sa question, relever ce qu'un ami a dit tout à l'heure, en parlant de la compétence.
Mm-hmm.
C'est vrai, la compétence ne se décrète pas. La compétence, on l'évalue et on la démontre. Et l'OCCAI a démontré sa compétence en matière de métrologie de masse. C'est pour cela qu'il a eu l'accréditation. Dans le cadre du commerce international, vous avez plusieurs partenaires, plusieurs intervenants. Et vous ne travaillez qu'avec l'intervenant qui inspire confiance, et la confiance vient justement de l'accréditation. Il y a des efforts qui sont fournis dans cette entreprise qui est fortement impliquée dans la normation internationale. Mais je vous ai dit que la normation intervient à plusieurs niveaux. Il y a une normation au niveau international. Je vous ai dit ISO, CI,
oui, ça on avait déjà évoqué, oui.
Il y a aussi une normation au niveau régional. Les gouvernements régionaux ont des sujets de normalisation. La SADEC A, la SADEC T, qui sont des normalisations. SADEC M pour la métrologie. Comme ça, ainsi de suite. Au niveau des États, il faut avoir des mécanismes d'appropriation des normes au niveau des États. Il faut que les normes constituent des outils pour faire face à nos problèmes spécifiques.
Oui.
Parce que quand on établit une norme internationale, c'est un consensus au niveau international. Vous trouvez les Chinois, les Américains, les Canadiens, les Africains, tout le monde doit te voir. C'est tout à fait normal que les normes internationales constituent des repères, mais ce n'est pas adapté aux conditions spécifiques des pays. Il y a des pays comme la Chine, où j'ai eu la grâce de participer, il y a des normes internationales, il y a des normes locales, il y a même des normes au niveau des localités. Ça veut dire que la norme doit être amenée à résoudre des problèmes spécifiques du lieu.
Au niveau de la société. Il y a trois auditeurs qu'on va y suivre rapidement. Ce sont les derniers, je crois, bien chacun 45 secondes pour permettre à ce que tous les compatriotes s'expriment. Joseph, vous êtes à Lubumbashi. Vous avez suivi les uns et les autres. Comment on verra la fin de l'émission? En bref, qu'est-ce qui doit être fait, Joseph? Joseph, vous êtes avec nous? Joseph, vous êtes avec nous? Vous êtes à Lubumbashi? Mais dommage qu'on ne parvient pas à joindre Joseph qui est à Lubumbashi. On est ici à Kinshasa. Roger, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Roger Tchabakamaya à Kinshasa.
Voilà, on vous écoute. On est à la fin de l'émission. En une minute, rapidement, votre point de vue par rapport à cet échange.
Sur ce, j'aimerais vous dire réellement que, à tout et pour tout, que ce soit dans les organismes, les entreprises ou structures de l'État, il n'y a que la malhonnêteté, l'escroquerie et la mauvaise volonté d'aider les peuples congolais. Parce que je donne un petit exemple avant de finir. Allez seulement demander un prix d'une attestation dans une maison communale. Si c'est machine pour arriver en Galère, vous trouverez qu'il y a toujours des prix différents. Alors nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour résoudre ce genre de problèmes. Si vous allez dans une université pour avoir l'inscription, vous trouverez ici c'est $25 pour l'inscription. Dans une autre université, c'est $70, $80 pour une inscription seulement. Mais vous comprenez que il n'y a pas les contrôles, il n'y a pas la normalisation en toutes choses. Donc, qu'on prenne un peu du sérieux, qu'il y ait aussi l'honnêteté et qu'on élimine l'escroquerie pour qu'on puisse résoudre ce genre de problèmes.
Merci beaucoup, Roger. Vous avez raison, notre invité a dit tout à l'heure, même au niveau local, les normes doivent être fixées pour résoudre à des préoccupations, se rapprocher de la population. Et quelles sont les normes qui doivent être fixées pour qu'on puisse entrer en possession, par exemple, d'une attestation de naissance, d'un tel document au niveau des services de l'État civil, par exemple, pour éviter qu'il y ait d'une commune à l'autre, qu'on ait un prix. On se demande, mais c'est sur base de quelques... De quelle norme, de quel principe? Alors, rapidement, Adrien, vous êtes à Kinshasa, dans le Congo central. Bonjour, Adrien. Adrien, pourriez-vous arrêter votre poste de récepteur, s'il vous plaît? Vous nous suivez directement à travers le téléphone portable. On vous écoute, Adrien.
Alors,
oui, arrêtez votre poste de récepteur, s'il vous plaît. Vous n'avez que 40 secondes pour vous exprimer. On vous écoute, Adrien. Voilà, c'est difficile. Oui, arrêtez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Là, on a perdu déjà 30 secondes sur votre intervention, Adrien.
Non, j'ai arrêté le poste
récepteur. Oui, allez-y rapidement. Vous intervenez régulièrement. Sachez que quand on intervient, on arrête les postes récepteurs. On vous écoute rapidement. Voilà, dommage, on a fini même par les perdre. Beaucoup d'auditeurs nous ont écrit hein, sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ils sont revenus sur le rôle du pouvoir public, mais nombreux aussi sont exprimés par rapport à la société civile. Sam Chunza, Steven Dulé, Michel Lapi, Fabrice Mpiana Senga, Timothée Moukili, maître qui nous a écrit des Luises dans la province du Kassai occidental des Membrés, le Kassai central actuellement. Nous revenons à vous, Bertin Toumba. On a suivi les uns et les autres. Vous avez donné des pistes et des solutions. On sait que ça aborde beaucoup de domaines à la fois, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette célébration et votre intervention au cours, je crois, bien de la situation de la journée en bref.
Merci beaucoup. Je salue tous les intervenants qui sont venus contribuer à la sensibilisation à cette occasion de la Convention générale des organisations. Je voudrais saluer qu'il y a de plus en plus une prise de conscience au niveau de la hiérarchie du pays. Je voudrais dire qu'il y a une proposition de loi qui est bien adoptée au Sénat. Pendant qu'on parle ici au niveau du ministère de l'Industrie, il y a une commission qui a été créée et dont nous avons l'honneur à laquelle nous avons l'honneur de participer pour que l'évaluation de cette activité dans notre pays, parce qu'il y a des mesures qui doivent être prises. La création de cette commission a été initiée par le premier ministre lien, donc il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Je salue aussi les efforts qui sont fournis par d'autres, notamment à l'OCC, qui participe à toutes les rencontres au niveau international. Mais un problème demeure au niveau de la gestion des normes nationales. Et il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Et la commission qui a été créée pour faire l'évaluation afin des mesures correctives sont prises d'urgence, parce que nous sommes dans le contexte, vous savez, des zones de libre-échange. Je vous dis par exemple en passant qu'au niveau du commissaire, il y a un document qu'on appelle le guide du consommateur qui demande au consommateur de ne prendre que des produits conformes aux normes commissaires. Si déjà les gens ne savent pas ce que c'est qu'une norme et qu'on ne l'a pas, vous voyez que ça va poser problème.
Mm-hmm.
Donc, je vous remercie encore de votre invitation et puis nous sommes tous disposés à échanger sur ces matières que je pense être capitales pour l'émergence de la RDC.
Merci beaucoup. On pense que ce n'est pas la dernière émission. La matière, elle est vraiment importante. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu Bertin Toumba Bouloulou, président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC. Merci à Alain Goy qui a mis en ordre cette émission réalisée par Julie Fézage, Gérard Ndiombo, et c'est à la coordination. Pierrot et la Mégie vous l'a présenté sous la supervision de Léonard Moulamba. On retrouve par nos auditeurs tout à l'heure sur www.radiocapi.net. Vous pouvez bien la télécharger, mais et la réécouter aussi ce soir en rediffusion à 20h03 heure de Kinshasa. Au revoir.